écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On vous a préparé notre top 3 des expositions à voir en ce moment, mais d'abord on vous parle d'un gâteau, ou plutôt d'une dispute sur la taille de part de gâteau, celui des subsides dans les arts de la scène. Je m'appelle Sandrine Puissant, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
C'est le bazar dans le monde des arts de la scène en Belgique francophone. Ils ont reçu davantage de subsides que d'autres secteurs de la culture, oui, mais ils contestent la manière dont ce gros gâteau a été partagé. Les subventions de plusieurs compagnies de théâtre, de danse ou de cirque ont chuté, et fortement. Pour certaines, les financements se sont même brutalement arrêtés. Leur survie est en danger. D'autres opérateurs s'estiment lésés. Il y a au moins 17 recours contre le nouveau plan de répartition des subventions dans ce secteur. Sans compter que d'autres lorgnent avec envie vers ce gâteau. Alain Lallemand est journaliste au Pôle Culture, il nous explique tout ça. Bonjour Alain.
Bonjour Sandrine.
Pour commencer, pour bien comprendre le contexte, la manière de répartir les subsides dans la culture a changé depuis quelques années, depuis 2020. Qu'est-ce qui a changé exactement ?
Eh bien, pour faire simple, ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance culturelle, c'est confier en quelque sorte les clés du budget, de la ventilation du budget, à des experts, mais des experts qui cette fois viennent de toutes les disciplines. En musique, on va demander l'avis à des gens du théâtre, la BD, le conte, tout ça sera intéressant, tout sera pris en compte dans une espèce de communion culturelle qui a rebattu les cartes de ce qu'on appelle les commissions d'avis, c'est-à-dire les endroits où on prend non pas les décisions, mais on donne au ministre de tutelle les orientations qu'il serait souhaitable de suivre. Est-ce que tel théâtre doit être plus ou moins subsidié ? Ben maintenant, ce ne sont plus simplement les théâtreux entre eux et dans une sorte de huis clos secret qui en décide. C'est plus transversal, c'est plus ouvert.
L'autre nouveauté, c'est la transparence ?
Absolument. Elle est prévue par le décret qui instaure toute cette horlogerie suisse. Donc, vous êtes habilité en tant que citoyen à savoir exactement qui a reçu telle somme d'argent. Vous êtes habilité à connaître les avis qui ont été rendus. La seule chose qui reste secrète aujourd'hui, c'est la discussion proprement dite. On ne peut pas savoir qui a tenu quelle position parce que le rendre public, cela induirait une certaine censure. Par contre, on peut tout savoir de qui, quel jour a siégé, sur quel dossier a rendu officiellement quel avis, positif ou négatif sur sa dotation, quel montant a été suggéré, comment a réagi l'administration, comment a réagi le cabinet de la culture. Donc c'est une transparence qui est absolument nouvelle.
Et justement, cette nouvelle transparence a permis de mettre en lumière des conflits d'intérêts. On a donné la clé du portefeuille à certains acteurs qui étaient membres des commissions chargées d'accorder des financements et on leur a demandé de décider quels subsides accorder à leurs concurrents. C'est ça qui s'est passé ?
Voilà, mais ce qui est nouveau, ce n'est pas le conflit d'intérêts, c'est la transparence. À partir du moment où on change un peu le moteur de la gouvernance culturelle, eh bien on a des ratés, on a des engorgements, des petites mises au point qui sont nécessaires. Tout ça est une sorte d'horlogerie suisse un peu délicate à ajuster. Au moment où on a dû essayer de ventiler le refinancement de l'aide aux arts de la scène, on a eu ce petit amateurisme parfois de certaines sessions et donc des conflits d'intérêts. Avant 2019, c'était, comme je l'ai dit, les théâtreux entre eux qui essayaient de se répartir la manne et donnaient des indications qui leur étaient plutôt favorables. Aujourd'hui, évidemment, rien n'a changé. Il est toujours tentant, lorsqu'on a un avis, une inflexion à donner sur une orientation budgétaire, de mettre en avant le sous-secteur pour lequel on travaille. Et si on voit mal, évidemment, un représentant de théâtre essayer de défendre son propre théâtre ou sa propre compagnie, parce qu'il y a évidemment des garde-fous contre ça, on se rend bien compte qu'on est toujours tenté de favoriser ce sur quoi on travaille. C'est l'évidence même. Ce qui est intéressant ici, c'est que après coup, grâce à cette transparence qui est la véritable nouveauté, on s'est rendu compte que, au total, les gens qui siégeaient étaient globalement mieux servis que ceux qui ne siégeaient pas. Ils étaient non seulement mieux servis, mais ils étaient mieux entendus, puisque s'il y a une délibération qui vous concerne directement, vous quittez la pièce. En théorie. Dans un cas au moins, une personne a refusé de quitter la pièce, ou plutôt a proposé de ne pas quitter la pièce en disant « je ne vais pas voter, ça me concerne, mais si je reste, peut-être que j'aurai les arguments pour mieux vous éclairer ». Ce qui est condamnable en tant que tel, ça c'est un des ratés moteurs qu'on a eu.
Ces ratés moteurs, comme vous dites, sont en fait dramatiques pour les arts de la scène, un secteur qui dépend énormément des subsides.
Je dis raté de moteur de manière un peu légère, parce qu'on peut penser que si votre moteur a des ratés, ben ce n'est pas grave, votre véhicule avance. Ici, on est quand même dans un secteur extrêmement tendu, où un petit raté de moteur qui va suspendre une subvention pendant 3 mois peut imposer à un opérateur, à une compagnie, à quelques acteurs qui se rassemblent pour essayer de faire vivre leur création, peut donc leur imposer de quitter le circuit parce qu'il va manquer pendant 2 mois, pendant 3 mois, un certain volume de financement. Donc, la création artistique, c'est quelque chose de très fragile. Si vous avez un coup de gel une nuit, ça suffit pour vous tuer vos plus belles fleurs. Ben, c'est exactement la même chose en culture. Il faut faire attention à ces petits ratés de moteur qui risquent d'avoir des impacts dramatiques.
Et est-ce qu'il y en a eu d'autres de ces ratés ?
On s'est rendu compte, puisqu'il y avait ces soupçons de conflit d'intérêts, que les opérateurs qui avaient été lésés par ces décisions, qui estimaient avoir été lésés, s'en sont pris en personne aux experts qui avaient pris les décisions. Et donc, à partir de là, il y a eu des menaces contre des particuliers, ou en tout cas ce qui était interprété comme des menaces. Et pour protéger ces particuliers, l'administration a décidé de masquer leur identité dans les procès-verbaux. C'est juste illégal. Donc, on a remplacé un excès par un autre.
Et sur le fond, est-ce qu'il y a aussi des critiques sur la pertinence des avis rendus ?
J'ai dit que la composition de ces organes d'avis était davantage transversale. Ben, si cette composition est davantage transversale, mieux éclairée, elle est moins pointue. Et donc, il y a des avis qui ont été jugés absolument effarants. On aurait reproché, disent les avocats des parties, à certains opérateurs de théâtre d'avoir mis en avant des filles jeunes et jolies, ce qui donne au spectacle un aspect désuet. Alors, le reproche est double. Donc, mettre en avant des filles jeunes et jolies, ok, ce qui donne au spectacle, deuxième critique, un aspect désuet. Mais aucune de ces deux critiques ne semble professionnelle, ne semble réellement étayée. On a donc eu l'impression que les jugements étaient parfois extrêmement superficiels, n'étaient pas à la hauteur, en tout cas, de tous les efforts politiques, de tous les efforts administratifs qui ont été faits pour essayer de rendre meilleure cette nouvelle gouvernance culturelle.
Est-ce qu'il y a un gros problème dans ce processus de nouvelle gouvernance culturelle ? Est-ce qu'il est défaillant ?
Je dirais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'était un très gros effort qui a été fait. Maintenant, l'un des gros problèmes, à partir du moment où des commissaires, donc des gens qui siègent presque bénévolement, parce qu'ils sont très faiblement défrayés, se font attaquer, il est à craindre que dans l'année qui vienne, alors qu'on doit les remplacer, et alors qu'il a déjà été très difficile de trouver des volontaires pour siéger dans ces commissions d'avis, eh bien on n'ait plus suffisamment de volontaires. Et ça, ce serait très grave. En littérature, on n'est jamais arrivé à compléter la commission. C'est un souci.
On a surtout parlé ici du secteur des arts de la scène, un secteur qui a bénéficié d'un refinancement dont d'autres secteurs culturels n'ont pas bénéficié. Est-ce qu'il y a un souci avec cette répartition ?
Le véritable souci remonte à une vingtaine d'années maintenant, c'est que de manière systématique, l'administration de la culture et les gouvernements qui se sont succédés ont favorisé les arts de la scène, que ce soit le théâtre et maintenant le conte, l'humour, les arts de la rue, tout cela est très bien. Il faut se rendre compte que pour tous les citoyens francophones de Belgique, votre participation sous forme d'impôt aux arts de la scène aujourd'hui est un montant de l'ordre de 30 euros par an. Est-ce que beaucoup de personnes mettent déjà 30 euros par an dans leur ticket de théâtre ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais c'est une somme significative. Il y a des gens qui ne vont jamais au théâtre et qui payent ces 30 euros. Par contre, ce que chaque contribuable donne toujours chaque année pour soutenir, par exemple, la littérature, les lettres, le livre de manière générale, c'est 1 euro. Est-ce que ce déséquilibre se justifie ? Évidemment, le secteur des lettres et le livre dit non, le déséquilibre est flagrant. Et le problème n'est pas limité à la littérature. Les arts plastiques ont les mêmes craintes. Ils disent, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que coûte le fait de faire une peinture, l'exposer, le financement des arts plastiques, lui aussi est défaillant. Donc, grand enjeu sans doute des prochaines élections, c'est de savoir quel parti et quel ministre aura la culture, quelles seront les nouvelles inflexions qui seront données à ces équilibres ou déséquilibres aujourd'hui au niveau de la culture. Est-ce qu'on pourra arriver à quelque chose qui soit plus enthousiasmant, plus juste entre secteurs, plus juste lorsque l'on donne 1 euro au théâtre, est-ce qu'on ne devrait pas donner aussi 1 euro ou 2 euros aujourd'hui en mesure d'urgence aux livres et aux arts plastiques?
Merci Alain.
Merci à vous.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Si vous vous demandez quelles expositions aller voir dans les prochaines semaines, on vous a préparé une petite sélection. Les journalistes culture de la rédaction ont retenu une quarantaine d'expos à ne pas manquer. Ils les partagent avec vous dans le MAD de cette semaine. Mais pour le podcast, on a demandé à notre collègue Jean-Marie Wenans de nous choisir ses 3 préférés.
C'est très très dur d'en choisir 3, vraiment très très dur, donc j'ai décidé de tricher un petit peu. La première chose à voir, c'est le surréalisme. Mais le surréalisme, il y a 2 expos. Histoire de ne pas rire, le surréalisme en Belgique, qui va se dérouler à Beaux-Arts, d'une part. Et d'autre part, Imagine, 100 ans de surréalisme international, ça c'est au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Alors attention, Beaux-Arts d'un côté, Musée Royaux des Beaux-Arts de l'autre. Mais pour une fois, les 2 se sont associés. Vous pouvez acheter un ticket pour aller voir les 2 expos pour le même prix. Vous pouvez en plus y aller à pied, puisque c'est vraiment pas très loin l'un de l'autre. Et il y a le Mont des Arts entre les 2, où il y aura des installations d'art contemporain liées, elles aussi, au surréalisme. Alors du côté de Beaux-Arts, ça va être le surréalisme plutôt belge, avec un côté plus, je dirais, plus farceur, quelque part, parce qu'on va avoir des gens comme Marcel Marienne, comme Paul Nouget, et même comme Magritte, qui a fait pas mal de solides petits gags durant sa carrière. Beaucoup de Belges, dont pas mal de femmes, qu'on va sans doute redécouvrir. Et puis de l'autre côté, au Musée Royal des Beaux-Arts, ça va être un peu plus sérieux, comme ça, avec tous les grands noms internationaux. Mais je pense que si on est intéressé par le surréalisme, c'est vraiment l'expo à voir. Et peut-être que si on ne l'est pas aussi, parce que ça va être les expos qui vont vous expliquer, mais c'est quoi, finalement, le surréalisme.
Ça, c'était votre premier choix. Le deuxième?
Je triche encore une fois. C'est James Ensor. Et là aussi, il y en a 2. Et toujours dans le même coin, il y en a une à la KBR, donc la Bibliothèque Royale, Inspired by Brussels, puisque James Ensor, effectivement, il est ostendais. Il est né à Ostende, il est mort à Ostende. On parle toujours de lui comme de l'ostendais, mais en fait, il a vécu tout un temps à Bruxelles. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, etc. Et il a réalisé énormément d'œuvres à Bruxelles. Donc, on va redécouvrir un petit peu à quel point il a été inspiré par cette ville à la Bibliothèque Royale. Et l'autre, c'est de nouveau à Beaux-Arts. Ben là, ce sera tout simplement la grande expo James Ensor maestro. Pourquoi maestro? Eh ben parce qu'il avait aussi une passion pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, etc. Et il y aura donc tous ces liens avec les arts scéniques, je dirais, dans cette expo. Mais surtout, on va voir énormément d'œuvres de James Ensor et de documents, notamment documents sur la grande rétrospective James Ensor, la première qui avait eu lieu. C'était en 1929 et c'était déjà au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Un troisième choix, mais sans tricher cette fois.
Le troisième et dernier choix, je ne triche pas, une seule expo. Enfin non, il y en a plein, il y en a une quarantaine je crois, c'est la BIP Liège, c'est un festival, le festival de l'image possible, la biennale de l'image possible, de la photographie, de la vidéo, des installations, énormément d'artistes, et tout ça dans un seul lieu cette fois-ci, les Chiroux, tous les Liégeois connaissent, c'est l'ancienne bibliothèque provinciale de Liège, c'est un bâtiment énorme, 7000 mètres carrés, ce grand bâtiment vide va être occupé par des dizaines d'artistes qui vont nous faire réfléchir un petit peu à la manière dont on regarde les choses aujourd'hui, aux images qu'on nous montre aujourd'hui, ce qu'elles veulent dire, comment elles sont fabriquées, comment nous devons les lire, comment nous devons parfois nous en méfier également. Tout ça donc à la BIP Liège au Chiroux et puis un tas d'événements alentour dans toute la région liégeoise. Et ça va être du 16 mars au 1er juin, donc c'est pas très très long. Il faudra pas hésiter à partir du 16 mars jusqu'au 1er juin au Chiroux à Liège.
Merci. À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre fidélité. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast. À demain.